Merci à Don Cherry.
Bonjour, Marley Dan.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Monsieur Lavigne, bonsoir.
Salut, Dan.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi-même.
Oui. Est-ce que... J'allais dire, est-ce que tu as eu une pensée pour moi? Alors, je recommence ma phrase. Tu ne dois pas te douter que j'ai eu une pensée pour toi quand j'ai vu Brad Marchand asséner un double échec à la tête de Scott Arrington au moment où le jeune joueur des Blue Jackets était agenouillé sur la patinoire. Je me suis dit, j'ai donc bien hâte à jeudi soir pour qu'Éric m'explique ce geste une fois de plus à la limite du raisonnable.
Je me doutais bien que tu m'en parlerais, là, moi aussi, quand je l'ai vu. Je te dirais, là, le pire dans tout ça, là, Dan, c'est que j'écoutais le match et là, je le voyais frustré, je le voyais bouillir, puis je me disais, garde-le bien faire une niaiserie bientôt. C'est comme si je la voyais venir. Quand il se met à pas fonctionner puis qu'il se passe rien, tu dis, quel flagosse qu'il va bien faire pour mettre son club dans le trouble. Et là, je le vois faire ça. Tu dis, sacrifice, ça peut pas. C'était drôle parce que je regardais le septième match où tout le monde vantait dans la série d'avant qui était très focusé à l'hymne national, puis qui était prêt, puis qui avait pris beaucoup de maturité, puis qui était beaucoup plus concentré. Trois games plus tard, le naturel revient au galop. À partir du moment où il y a un peu de frustration, son club tire de l'arrière, même si le match est serré, il l'échappe complètement. Il est chanceux de ne pas être suspendu, m'a dire de quoi, parce que encore une fois, c'est pas son meilleur move.
Puis là, les gens qui se demandent s'il a réussi à dormir 5-10 minutes depuis ce temps-là, bien, il a réagi. Les journalistes sont allés le voir, il a commenté, puis il a dit là, partez pas en peur avec ça. Il dit, it's playoff time, on est en série. Ça fait partie des séries, mais ça fait partie des séries dans le minding Brad Marchand. Ça fait pas partie des séries pour tout le monde.
Non, on le dit tout le temps, là, Brad, il joue sa ligne, il est tout le temps... Quand son club va bien et que lui va bien, c'est pas inquiétant. Quand le club, quand la game vient sa ligne, il veut trop en faire déranger, mais ça, c'est un coup totalement inutile et gratuit. Ça servait à rien, mais c'est de valeur, là, mais c'est du Brad Marchand. Mais appelle tous les clubs, puis les clubs vont tout le vouloir quand même.
Éric, est-ce que je comprends avec le geste qu'il a fait cette semaine que t'as un peu abdiqué ou est-ce que moi, je dois abdiquer? Il changera jamais, Brad Marchand?
La question est tellement bonne que moi, j'ai abdiqué, parce que je me dis tout le temps. D'une fois à l'autre, on se dit, il va comprendre, puis sa dernière fois, il ne recommencera pas. Ça fait partie du personnage. C'est malheureux, là, mais ça fait partie du personnage. Puis tu risques... Là, tu vas te dire... On va tous se le dire à soir, puis on va se dire, ah, il va apprendre sa leçon, puis il ne recommencera pas, mais je suis même pas capable de te garantir qu'il ne le fera pas avant la fin des séries, même. Il va peut-être recommencer l'an passé, mais je ne peux même pas te donner de garantie, même d'ici la fin de cette série-là. Tu sais, c'est comme un petit gars qui fait un mauvais coup. Brad, là, il est repentant pour un petit bout, puis là, il va se retenir pour un petit bout, puis c'est comme s'il disait « je recommencerai pas ». C'est comme si c'est plus fort que lui, puis un coup qu'il fait, je suis convaincu que souvent, il se dit « qu'est-ce que j'ai fait là ?» Je l'ai vu, moi, dans mon bureau, me dire « je sais pas, Éric, ça a comme parti tout seul, je sais pas ce qui est arrivé. » Mais c'est pour ça que je suis obligé un petit peu d'abdiquer, malheureusement.
OK. Tu dis que tu as jasé avec lui dans ton bureau, puis c'était ça ma prochaine question. Est-ce que dans la vie, il est aussi comme ça?
Ben, il est comme ça parce qu'il est drôle. C'est un gars qui rit tout le temps. Quand il est assis avec toi et qu'il jase avec toi, tu regardes la face, là. C'est comme s'il était toujours en train de préparer un mauvais coup. Il a une face à ça. Puis comme de fait, je te dis pas qu'il faut toujours que tu le surveilles, mais il faut que tu sois en mesure de savoir que c'est pas le parfait garçon que tu voudrais avoir comme jambe tout le temps. C'est juste que tu sais qu'il peut l'échapper. Puis c'est du Brad tout craché.
Est-ce que ce geste-là, peut-être qu'il le fait au fond de lui un peu pour détourner la série ou prendre un peu de pression, est-ce que ce geste-là pourrait venir qu'à déranger les Bruins, particulièrement Chara et Bergeron?
Il a fait pire que ça, Dan, pour déranger son équipe dans les dernières années. Là. Ça, on va dire, comme toi, c'est playoff time, là, c'est un geste de playoff, puis... Sauf que je pense que même ses coéquipiers, je suis sûr que Patrice Bergeron, tu lui poserais la question si tu l'avais en entrevue, certain qu'après la game ou le lendemain à l'hôtel pour le restaurant, il doit dire « Brad, qu'est-ce que tu as fait là? » Je suis sûr que Brad lève les épaules. Tu sais, il n'a jamais de défense à ce qu'il fait. Là. Il peut même pas essayer de convaincre ses chums Chara et Bergeron J'ai dit, les gars, j'ai fait ça à cause de ça. C'est tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas, les gars, pourquoi je l'ai fait. Puis moi, je l'ai vu répondre ça. Puis je l'ai vu me répondre ça dans mon bureau. Puis là, il dit, garde, je recommencerai pas, mais tu sais que il risque de le refaire. Mais il a fait pire l'an passé quand on l'a vu licher un joueur des Leafs de Toronto. Oui. Tu dis, ça avait encore bien moins de sens parce que là, ça dépassait l'entendement.
Exact.
Mais là, c'est un geste cheap. C'est l'addition de tout ça qui fait qu'on en parle. Fait qu'il est chanceux pas à peu près de ne pas être suspendu. Là.
Ben d'accord avec toi. OK. Craig Berube, dans le match cette semaine contre les Stars de Dallas, il a reçu de la bière sur le banc. Les gens de la sécurité à l'aréna des Stars ont expulsé les partisans. Est-ce que toi, dans ta carrière de coach, probablement qu'après les matchs, tu en as bu quelques bières, mais est-ce que tu en as reçu de la bière également?
La bière, oui, je l'ai reçu, mais je te dirais ce que je me souviens le plus. Puis quand j'ai vu le match, on se rappelle toujours des souvenirs. Au début, on savait pas trop ce qui se passait, mais on les voyait regarder dans les estrades.
Ouais.
Évidemment, je me rappelle de certains matchs à Chicoutimi où j'ai compris c'était quoi le fromage quick-quick parce qu'on avait reçu une poutine sur la tête d'une série contre Chicoutimi. Donc là, je t'avouerai que le service de sécurité est un peu moins serré. Parce que le gars qui nous l'avait lancé n'a pas été expulsé. Au contraire, ça pouvait être un des héros de la soirée. Je pensais même qu'il pouvait avoir une étoile à la fin du match. Fait que, dans le junior, il y a du folklore des fois. Il y en a un peu moins aujourd'hui. Mais oui, j'ai vu ça. On se rappelle des anciennes histoires à Val-d'Or que certains coachs avaient reçu de l'urine d'orignal sur le banc. Mais moi, dans mon cas, personnellement, je l'ai vécu... avec le fromage, avec la poutine à Chicoutimi.
Puis à Val-d'Or, l'urine d'orignal, c'est pas obligé d'être dans le temps de la chasse. D'après moi, ils ont ça à l'année.
D'après moi, ils en gardent en réserve.
OK. Jordan Binnington, hier, il a sauté les plombs, si tu me prêtes l'expression. C'est un jeune de 25 ans. Il n'a pas l'expérience de la Ligue nationale, mais il garde comme s'il avait 32 ans puis ça faisait 10 ans qu'il était dans la Ligue. Hier, Jamie Benn y a joué dans la tête. Ma question pour toi qui as coaché toute sa vie, est-ce que Binnington, en date d'aujourd'hui, aurait besoin d'un entraîneur d'expérience comme Joel Quenneville pour le ramener dans un bon état d'esprit pour le prochain match ou Craig Berube, ça peut faire?
Oh, Craig Berube, ça peut faire parce qu'un staff, là, c'est rendu à 3-4 entraîneurs. C'est rendu avec... des spécialistes, chacun des clubs, un psychologue. Faites-en pas qu'aujourd'hui, ils ont parlé. Là.
Okay.
Ils ont parlé, puis où c'est un peu plus excusé, c'est que c'est lui qui les a amenés en série. Là.
Ben oui.
Je pense qu'aujourd'hui, ils vont prendre le temps de décanter avec lui. Lui-même, aujourd'hui, doit réaliser de qu'est-ce que j'ai fait là. Puis c'est vrai que je me suis laissé distraire, puis c'est vrai que j'ai perdu ma concentration. Mais un athlète professionnel, avec tout ce qu'il y a dans l'entourage de l'équipe aujourd'hui, là, soit sans crainte, ça prend pas Joel Quenneville. Là. Que ce soit Greg Berube ou un autre, il y a quelqu'un dans le staff, ne serait-ce qu'un directeur-gérant, qui va faire en sorte de dire « Oh, là, on remet pendule à l'heure, on s'assure de calmer la tempête puis de faire en sorte qu'il retrouve son focus pour la prochaine game. » C'est que ça, j'ai pas d'inquiétude. Lui, comment il va réagir, ça, on le sait pas parce qu'on le connaît pas. Parce que c'est sûr que Dallas va essayer d'y retourner le déranger. Là. Ça, il y a aucun doute. Mais pour ce qui est de l'entourage puis de l'encadrement que le gardien peut avoir, tu peux être convaincu que les actions ont été prises aujourd'hui et peut-être même hier soir. On a probablement attendu là, que la poussière retombe, mais les clubs sont trop bien encadrés. Il y a trop de spécialistes dans l'équipe aujourd'hui pour que le suivi n'ait pas été fait aujourd'hui.
Évidemment, probablement que Binnington aimerait ça avoir un Chris Pronger dans son équipe pour la prochaine game, mais il n'y en a pas. Est-ce que des gars comme Pietrangelo et Boomister, même si ce n'est pas les deux plus salauds de la Ligue, est-ce qu'eux auront un rôle à jouer important pour le surprotéger au prochain match?
Un rôle à jouer pour le protéger, mais je pense que c'est plus, ce qu'on va plus dire à notre gardien aujourd'hui, c'est essaie de pas te laisser distraire. C'est fait de façon volontaire. Ça fait partie de l'apprentissage, hein.
Parce qu'Éric,
il y a 50 games dans la Ligue nationale.
Ouais, il y a 50 games d'expérience, mais on s'entend qu'hier, il est tombé dans le panneau, là.
Absolument. Hier, il est tombé dans le panneau comme une recrue.
OK.
Il est carrément tombé dans le panneau comme une recrue. Ça, il n'y a aucun doute. C'est que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont se recalmer. Puis probablement que lui, même qu'ils voient ces images qu'ils ont fait du vidéo avec aujourd'hui, là, c'est sûr et certain. Et que lui, il va dire, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a un gardien intelligent, puis je pense que c'en est un, parce que ne serait-ce que par les performances qu'il a eues, d'être capable de dealer avec la pression dans la dernière moitié de saison, mais je pense qu'il a réalisé qu'il est tombé dans le panneau, puis je serais surpris qu'il retombe dans le panneau une deuxième fois.
OK. Rod Brind'Amour, il coach ses joueurs comme s'il coachait un Bantam 2A dans les années 80. Les high five, puis il trip, puis il dit aux gars quand ils gagnent une série, profitez-en, puis allez prendre une bière, puis amusez-vous. Puis on dirait un coach des temps modernes. Est-ce que c'est cool ou ça peut devenir un piège?
Il y a des nouvelles tendances, Dan, de ce qu'on voit dans les séries présentement. Tu vois Rod Brind'Amour qui arrive avec l'attitude que tu viens de nous mentionner, mais ça va bien quand ton club gagne, puis quand ton club est sous-estimé et non favori, exemple, en anglais, on dit underdog, tu dis, on ne devrait pas être là. En deuxième moitié, ils ne devaient pas être là, ils se sont mis à gagner. Fait que c'est sûr que ça rapproche un coach de ses joueurs, ça. Puis c'est sûr que tout a l'air beau. C'est dans les moments de crise que tu vois la vraie personnalité d'un coach. Mais là, tout va tellement bien. Fait que ça, tu reviens un peu avec une ancienne mentalité où le gars est très proche. D'un autre côté, regarde aussi du côté de Saint-Louis. Tu regardes Bérubé, je le regarde, c'est le fun parce qu'on voit souvent dans un reportage TV avec le micro sur lui, puis le gars qui discute avec les joueurs sur le banc. Puis lui, c'est la vieille méthode, que tu le vois faire son pep talk dans la chambre, la façon que ça se faisait avant, sans trop de tableaux, sans trop de vidéos. Tu l'écoutes parler sur le banc, Dan, ça va te rappeler certains coachs qui t'ont déjà coaché.
Oui.
C'est la vieille école. Fait que tu vois que là, il y a plus en plus un mix. Et ça va surtout être intéressant de voir pour les prochaines années, ça va être une nouvelle tendance. Il y avait eu une petite tendance des universitaires dans les dernières années d'amener les gars de la Ligue américaine. Là, on va toujours revenir plus avec la mode des anciens joueurs parce que c'est des vagues. Hein? Quand tu vois que des anciens joueurs, d'un coup, sont mis en chef, ont du succès, comme ont les deux coachs qu'on parle présentement, Brind'Amour et Bérubé, il y a plusieurs équipes encore aujourd'hui qui n'ont pas de coach. Là.
Oui.
C'est que ça va être cette tendance-là qui va être prise de regarder davantage vers des anciens joueurs. C'est souvent des modes comme ça, puis c'est des vagues. Ça va être intéressant de voir si ça va influencer le choix des prochains entraîneurs.
C'est drôle, tu viens de parler des entraîneurs universitaires, puis Jim Montgomery arrive des universités américaines. C'est l'entraîneur des Stars de Dallas. Puis hier, pendant le match, il a, en cours de match, changé ses trios. C'est pas un peu ça la première qualité d'un entraîneur-chef, c'est de s'ajuster pendant un match, Éric?
C'est la clé. Des entraîneurs, ça dépend de ta philosophie. Comme tu sais, on parle souvent à Montréal, que Claude Julien est un petit peu trop patient avant de changer ses trios. On reprochait à Michel Therrien d'être trop proactif à ce niveau-là. Mais moi, je pense que dans un match, et surtout dans les séries éliminatoires, faut qu'un coach réagisse. Puis c'est ça qui va faire souvent la différence. Un coach qui attend une partie trop dans les séries, ça pardonne pas. Tandis que si tu fais ton action pendant un match de série. Et ça, pour les joueurs, là, c'est apprécié. Quand les joueurs réalisent que le coach est assez allumé pour faire des changements qui vont fonctionner, t'as pas idée comment pour les coachs, pour les joueurs et pour le coach, ça donne la crédibilité et c'est plus facile après ça pour passer ton message. C'est qu'il faut trouver le bon dosage entre être trop puis entre être pas assez, mais d'un série, t'as pas le choix. Tu peux pas être patient, Dan, parce que c'est une question de vie ou de mort. Puis si tu tires l'arrière dans la série, mais ça peut te mettre dans l'embarras.
OK. Quand je jouais à Pee-Wee 2C pour le Jardin de Charlebourg, des fois, on était 8 attaquants, puis notre coach, il disait, ça va être 3 paires d'ailes puis 2 centres. Dans l'intensité d'un match de série, t'as coaché longtemps, junior, Ligue américaine, universitaire, t'as fait tous les niveaux, Éric. Est-ce qu'un match des séries, comme on voit ce soir à la télé, c'est trop intense pour ramener un gars aux deux chiffres?
Aux deux chiffres, oui, mais aux trois, non. La différence entre jouer à quatre trios puis jouer à trois joueurs de centre, ça fait une différence. Moi, je pense que ton premier trio d'un match important comme ce soir doit revenir aux trois chiffres. Ton troisième, ton quatrième trio peuvent venir t'acheter du temps. Mais ton premier trio, dans une question de vie ou de mort, là, c'est lui qui va te faire gagner. Puis ton deuxième trio, qui est souvent très proche du premier, si lui est dans sa game, ben c'est à lui de n'avoir plus. La patience de faire, tu sais, un quatrième trio qui embarque, Dan, puis on voit souvent ça dernièrement, là. Quatrième trio qui embarque, connaît un bon chiffre, puis on vient exciter, puis le coach veut les remettre. Au bout de la ligne, un quatrième trio, il score quasiment jamais. Fait qu'oublie pas ce que ton premier trio peut t'amener, puis je pense tout le temps, moi, dans les séries, que si tes meilleurs joueurs trouvent le moyen de produire, tu vas gagner. Fait que c'est à toi, comme coach, de trouver une façon de les mettre dans une position qui va faire en sorte qu'ils vont probablement pas être contre la meilleure paire de défense l'autre bord, puis vont trouver le moyen de donner du momentum à ton équipe, puis d'aller chercher le gros but. C'est que moi, je suis un gros croyant, un fervent partisan, que ton premier trio, il faut qu'il joue, parce que c'est lui qui te fait gagner. Puis si c'est avec lui que tu as un bon salaire, c'est que tu veux continuer à jouer.
OK. C'est quoi ta lecture de l'utilisation des trois meilleurs joueurs en attaque des Bruins? Ce soir, Cassidy a dit Pastrnak va revenir avec Marchand et Bergeron. Au dernier match, ils les avaient séparés. Je comprends très bien l'objectif, c'est que c'est pas lui qui a le dernier changement. Puis il dit, à un moment donné, s'il envoie tout le temps le trio défensif contre notre premier trio, ben au moins Pastrnak va pouvoir faire d'autres choses sur un autre trio. C'est quoi ta lecture de ça?
C'est vrai, mais ça marche pas, là. Ça score pas de but. Il trouve pas le moyen de marquer des buts. C'est que moi, je pense qu'il faut qu'il trouve une façon que ces trois gars-là sont neutralisés présentement. Puis Columbus joue très bien, là, faut le reconnaître. Mais je pense qu'il faut faire appel à la fierté de ces trois joueurs-là qui ont dominé tout au long de l'année. Puis je pense qu'il faut les piquer au vif puis trouver une façon de les remettre au défi. Marchand, si tu le mets au défi, là, il va rebondir. Je suis pas inquiète. Bergeron, c'est un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale. Pastrnak, il faut qu'il fasse dans les séries à ce temps. Il faut qu'il trouve le moyen d'être efficace dans les séries. Mais je suis convaincu que son coach ce soir va leur lancer un défi, va les avoir rencontrés dans le bureau, va dire « faut que vous nous ameniez à terre promise, puis assurez-vous d'être nos meilleurs joueurs sur la glace pour faire la différence. » Pas juste être les meilleurs, faire la différence. Et je suis convaincu que ce soir, ces gars-là vont être en mission parce qu'ils vont s'être fait challenger par le coach.
Parfait. Un gros merci, Éric. Bonne soirée à toi.
Merci, Dan. Salut bien.
Salut bien. Éric Lavigne, le coin du coach, chaque jeudi dans l'avant-match. Toujours intéressant de lui parler. Avant d'aller à la pause, Will vous a sorti deux extraits concernant Pierre-Carl Pelado. Vous avez suivi la saga Bell Québécois. Vous avez entendu les rumeurs de fermeture de TVA Sports. Il y a des gens qui ont fait des liens et qui ont dit « Ben là, si TVA Sports ferme, d'après moi, c'est parce que Québécois a abdiqué et il n'y aura plus de Nordique à Québec. » Il était en point de presse aujourd'hui. Notre collègue Jonathan Bernard était là. Écoutons ce que Will a sorti sur le fameux conflit des derniers jours.
Ce qui s'est passé avec TVA Sports, le fait de retirer le signal, ça ne ternit pas votre image auprès de la Ligue nationale?
Non, j'ai entendu dire, effectivement, que pour certains, ça pouvait avoir cette conséquence. Vous savez, le commissaire était très informé de cette situation. Et c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Hein. Faut savoir que les distributeurs et les diffuseurs, lorsqu'ils ne s'entendent pas, ils ont le droit de le faire. Et bien honnêtement, j'ai tendance à penser que c'est comme ça que ça va fonctionner dans l'avenir.
Vous avez avisé le commissaire?
Oui, tout à fait. Donc, on a des relations très étroites avec le commissaire, avec l'équipe de direction de la Ligue nationale, évidemment, parce que nous sommes un partenaire comme diffuseur. Donc, on continue à être en étroite relation.
Mais c'était bon qu'il complète sa phrase, par exemple. On est en étroite relation avec les gens de la Ligue nationale. Là, il y a eu comme trois petits points de suspension. Parce qu'on est un partenaire, vous le savez, comme diffuseur. Ah, OK, c'est pas la même chose qu'on est en attente pour une équipe. C'est le même groupe, mais ils sont en étroite relation, particulièrement parce qu'ils sont diffuseurs. S'il n'y a plus de TVA Sport, comment ils font pour être en étroite collaboration? Moi, je crois pas que TVA Sport va fermer juste pour ça. Et si un jour ça ferme, peut-être qu'il y a une clause de sortie de Québécois pour dire, ben là, on n'a plus de plateforme pour présenter vos matchs, donc on doit abdiquer. Mais moi, je pense que la Ligue nationale de hockey avait mieux négocié que ça son contrat. À l'époque, je vous rappelle, 12 ans, 5,1 milliards avec Sportsnet et TVA Sports. Pas certain que TVA Sports, ça va fermer dans deux semaines. Si ça ferme, je vais être surpris, justement en raison de ce contrat-là avec la Ligue nationale. On a aussi demandé cet après-midi à Pierre-Carl Pelado, êtes-vous encore intéressé à ramener Nordique?
Les gens de Québec sont inquiets. On vous a vu faire de la politique, acheter une compagnie de taxi dans les derniers jours. Est-ce que vous avez encore la tête à 100% à ramener un club de hockey?
Tout à fait. Tout à fait.
Est-ce que vous avez saisi toutes les opportunités qui se sont présentées à vous pour le faire?
Toujours. Toujours. Et puis, je discute avec des partenaires de la Ligue et je vais continuer à le faire.
Quelle bonne question posée. Êtes-vous toujours intéressé? Tout à fait, tout à fait. Avez-vous saisi toutes les opportunités? Bravo au journaliste qui a posé la question en deux volets. Pierre-Carl Pelado a patiné un peu, évidemment. Là. On ne pourra jamais vérifier s'il a saisi toutes les opportunités. Mais pendant qu'on entendait Pierre-Carl Pelado aujourd'hui, en point de presse, challengé sur son conflit avec Bell et sur la possibilité de revoir les Nordiques, pendant ce temps-là, hier à Ottawa, Gary Bettman a parlé des commotions cérébrales. C'était pas super, soit dit en passant, son discours sur les commotions cérébrales. Si j'ai bien compris, il a dit que c'est pas parce qu'il y a de nombreux coups à la tête qu'il y a plus de commotions. Non, d'après moi, c'est les coups aux genoux qui augmentent le nombre de commotions, hein? Allô? Y a-tu quelqu'un sur la ligne? Les commotions cérébrales, c'est le cerveau, M. Bettman. Gary Bettman a dit hier à Ottawa, les sénateurs ne sont pas à vendre. Ah! Finalement, il y aurait tout pour l'être, mais ils ne sont pas. 31 mai 2011, je vous rappellerai, le transfert des Trashers d'Atlanta vers Winnipeg. On est juste le 2 mai, après tout.